Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud pour le commencement de cette semaine, c'est tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, un maire du Nord qui décide de fermer toute son école pour cause de Covid. Valérie Pécresse chez Éric Ciotti, et un objectif affiché, l'unité de la droite et puis la folie des robots de cuisine. Oui, oui, ça continue.
Écoutez, deux sujets à 12h40, le Covid, faut-il avancer les vacances scolaires, je le disais, le sujet est sur la table du Conseil de défense qui se tient en ce moment même à l'Élysée. Voilà pourquoi on n'a pas encore toutes les précisions. Et à 12h50, la campagne présidentielle, point d'étape avec Édouard Le Cerf de l'Institut BVA, après l'actualité riche du week-end.
La question du jour, justement, sur RTL.fr, Éric Zemmour a-t-il, selon vous, réussi son premier meeting? Vous dites oui à 62%. La météo du jour, c'est avec vous, Louis Baudin, bonjour.
Bonjour Amandine.
C'est encore bien bien gris.
Ah oui, c'est très nuageux. Quand je vois mes images satellites, là, ça défile sur toutes les régions. Alors parfois, il y a une petite trouée par miracle, mais ça ne dure jamais très longtemps parce que les nuages reviennent avec notamment une perturbation qui glisse actuellement sur la moitié ouest avec des nuages, de la pluie. Alors cette pluie va circuler sur toute la France. Elle arrivera sur les frontières de l'Est en fin de journée. Ça donnera de la neige en montagne à partir de 1200, 1400 mètres en milieu d'après-midi sur les Pyrénées, puis sur les Alpes en fin de journée. Après son passage, on trouvera quelques éclaircies sur la Bretagne. Puis il y aura un peu plus de soleil quand même près de la Méditerranée, mais avec là beaucoup de vent, puisque Mistral et Tramontane atteindront 90 km/h. Les températures, 3 à 5 degrés seulement dans le nord-est, 6 à 9 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 10 à 14 dans le sud.
Merci beaucoup Louis, à tout à l'heure 13h pour le programme complet de la semaine.
RTL Midi.
Et pour commencer, donc pas d'école ce matin à Herly dans le Nord. Le maire de la commune qui est située tout près de Lille a tout simplement décidé de fermer ses 9 classes et toutes les salles municipales, tout ça pour cause de Covid, Antoine Decarde.
Oui, plus d'école, plus de sport d'intérieur, ni de marché de Noël depuis ce matin ici dans cette commune de 2500 habitants à 20 minutes de Lille. C'est en concertation avec la préfecture et l'ARS que le maire Bernard Debert a pris cette décision.
Herly est dans la fourchette haute du nombre de cas. C'est deux classes fermées il y a une dizaine de jours. Puis la semaine dernière, c'est deux autres classes qui ont fermé. Depuis la prise de cette décision, nous avons eu d'autres cas signalés. Renforcer un protocole sanitaire avec tout ce qu'on nous demande aujourd'hui me semblait impossible, d'où la prise de décision tout simplement.
Le nombre de cas explose devant la seule pharmacie de la commune, celle de Sandrine Dubuisson. Il y avait la queue ce matin.
On voit des personnes contacts, oui. Une forte demande de tests. Ça touche beaucoup les enfants. C'est ce qu'on remarque par rapport aux vagues précédentes. Ce sont surtout les enfants qui sont touchés et donc forcément les parents, les contacts, oui.
Et forcément, avec l'école fermée, les enfants sont avec leurs parents.
T'es contente de pas aller à l'école ?
Hein, non, hein.
Michael est embêté.
C'est compliqué parce que, bon, c'est une organisation, c'est délicat. Bon, bah là, je suis là, donc ça va, mais sinon, on fait comme on peut, on fait avec. Moi, je suis persuadé qu'ils vont refermer la semaine prochaine aussi.
Car la fermeture doit pour l'instant durer 7 jours avant une nouvelle prise de décision en fin de semaine.
Antoine Decarna, Herly, dans le Nord pour RTL. Cette crise sanitaire, elle est une nouvelle fois au menu des discussions ce midi à l'Élysée. Nouveau conseil de défense en ce moment même. Il a débuté à midi. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour à tous.
Un élément encourageant tout de même, c'est le nombre de cas qui continue d'augmenter, mais moins vite.
Voilà, la courbe commence légèrement à s'arrondir. Quand il y a 15 jours, les hausses d'une semaine à l'autre étaient plutôt de 60%. Eh bien, la semaine dernière, elles étaient de 50%, voire même 38% hier dimanche par rapport au dimanche précédent. Ça grimpe, mais un peu moins fort, sachant que les Autrichiens, les Allemands pensent, eux, être arrivés au pic, que si on regarde dans les pays qui ont eu une cinquième vague plutôt que chez nous, comme la Roumanie, le pic est arrivé au bout de 2 mois. Eh bien, les épidémiologistes l'espèrent en France autour de Noël, à condition que le rythme de vaccination ne faiblisse pas et que les Français respectent les gestes barrières.
La situation chez les 6-11 ans, en revanche, reste préoccupante. C'est d'ailleurs le gros point noir du moment.
Ah oui, avec des taux d'incidence de 1800 en Ardèche, dans la Drôme, 1300 en moyenne en région Rhône-Alpes. L'épidémie est aussi forte chez les 12-14 ans. Donc les courbes des enfants vont être regardées attentivement dans les prochains jours et en fonction. Le gouvernement pourrait alors accélérer accélérer le début de la campagne de vaccination et c'est une piste qui n'est pas sans poser de problème. Avancer les vacances de 2 jours.
Merci beaucoup Virginie Garin.
Alors que faire effectivement? Faut-il avancer les vacances scolaires? On va en débattre dans moins de 10 minutes.
Cette pandémie, en tout cas, vous le savez, on en a souvent parlé, a boosté les ventes de robots de cuisine. Plus 30% depuis le premier confinement et l'engouement ne faiblit pas. La preuve avec cette cohue ce matin chez Lidl, Léonard Cassette, vous étiez dans un magasin du 12e arrondissement de Paris.
Une bousculade comme aux plus belles heures des soldes. À 399 € contre 2 à 3 fois plus pour les autres modèles, tout le monde cherche à mettre la main sur le robot Monsieur Cuisine. Carton sous le bras, Mathieu est parmi les premiers à ressortir.
Je me suis fait emporter par les gens qui se sont mis à courir dès l'ouverture. C'est allé assez vite et tout le monde s'est rué dessus.
Certains ont fait la queue très tôt, dès 6h ce matin. Julien vient pour la deuxième fois et il a bien failli ne pas repartir avec son autocuiseur.
Je suis arrivé pile à l'heure de l'ouverture quoi. Plus il y a de retard, moins il y a de chance de le récupérer. Je sais que la dernière fois j'étais venu trop en retard et du coup il m'était passé sous le nez.
Les 100 modèles en stock s'écoulent à une vitesse délirante. Amateur de potage, Claude est l'un des derniers chanceux.
Avec tous les services qu'il peut rendre, c'est formidable. Et pour le prix, imbattable. Il n'est que 8h50 et il n'y en a plus.
Avec ce succès, le magasin prévoit déjà d'en remettre en rayon dès la semaine prochaine.
Un reportage signé Léonard Cassette pour RTL.
Tout à fait autre chose à présent, la politique et après un week-end bien riche, Valérie Pécresse est à l'heure du déjeuner dans les Alpes-Maritimes, le fief d'Éric Ciotti.
Thomas Després, bonjour, vous êtes sur place bonjour. Pour RTL. Déplacement important à plus d'un titre, hein, c'est le premier d'abord depuis son élection. Et puis il va falloir aussi et surtout, j'ai envie de dire, sceller l'union avec Éric Ciotti.
Oui, Valérie Pécresse qui est arrivée il y a une petite heure maintenant à l'aéroport. Accueil chaleureux avec Éric Ciotti.
Bon, ça va, tu vas, on n'a plus le droit de s'embrasser.
Mais ce n'est pas certain qu'il y ait autant de chaleur dans leur tête-à-tête qui se déroule en ce moment dans un restaurant sur la promenade des Anglais. Parce qu'avec ses 40% au Congrès, Éric Ciotti entend bien peser sur la ligne choisie par Valérie Pécresse. Une ligne assurément plus à droite, mais ce n'est pas gagné parce que la présidente de la région Île-de-France a déjà dit qu'elle ne souhaitait pas reprendre certaines des propositions d'Éric Ciotti sur le Guantanamo à la française, par exemple. Alors, est-ce que Éric Ciotti ne serait pas un petit peu mauvais perdant? On lui a posé la question à la sortie de l'avion.
Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la droite est de retour, que cette droite, elle est fière d'elle-même, fière de ses valeurs. Et je pense surtout que Éric a une place très singulière à jouer dans cette campagne qui s'ouvre.
Alors, une place singulière, qu'est-ce que ça veut dire? Vont-ils former un tandem? C'est en tout cas ce que souhaite Éric Ciotti. Il l'a tweeté ce matin. Les deux sont en ce moment même en train de déjeuner ensemble, donc ils vont forcément en discuter. On les retrouvera ensuite cet après-midi à Saint-Martin-Vésubie, le village natal d'Éric Ciotti, pour un premier meeting côte à côte.
Thomas Després à Nice, envoyé spécial à Nice pour RTL. Le parquet de Bobigny annonce par ailleurs l'ouverture d'une enquête après les incidents survenus hier lors du meeting d'Éric Zemmour. L'agression, notamment de plusieurs militants d'SOS Racisme. De son côté, Éric Zemmour lui a porté plainte contre l'individu qui s'est jeté sur lui, un homme de 27 ans qui est toujours en garde à vue. À l'étranger, ce tollé quasi unanime après la condamnation d'Aung San Suu Kyi, une tentative effroyable d'étouffer l'opposition. Voilà ce que dit Londres. Bonjour Brice Dugénie.
Bonjour.
L'opposant de Birman, prix Nobel de la paix, on le rappelle, écope de 4 ans de prison, notamment pour violation des règles sanitaires.
Absolument, dans sa toute puissance, la junte militaire birmane ne cherche plus vraiment de chef d'accusation crédible. Aung San Suu Kyi a donc été condamné à 4 ans de prison, dont 2 pour non-respect des règles Covid, dans le cadre de l'organisation des élections remportées haut la main par son parti l'année dernière. Les militaires disent avoir relevé 11 millions d'irrégularités au cours de ce scrutin, justifiant ainsi ce coup d'état militaire du 1er février. Assignée à résidence depuis, celle qui incarne encore un espoir démocratique pour de nombreux Birmans reste sous le coup d'autres accusations. Importation illégale d'outils de télécommunication, corruption, fraude électorale. Elle pourrait passer le reste de sa vie en détention. Les ONG dénoncent des accusations bidons. Les Nations Unies demandent la libération de tous les prisonniers politiques. Une ONG locale de défense des droits humains estime à 1300 le nombre de personnes tuées par les militaires depuis leur prise de pouvoir par les armes il y a 10 mois.
Brice Dugénie du service étranger de RTL. Le foot n'est pas encore de successeur pour Claude Puel, mais Loïc Perrin, ancien défenseur central et ancien capitaine des Verts, est nommé coordinateur sportif de la AS Saint-Etienne pour le poste d'entraîneur. Deux noms circulent avec insistance, ceux de Pascal Duprat et de David Guillon, Saint-Etienne. Dernier, on le rappelle, de Ligue 1 après sa défaite 5-0 face à Rennes.
Défaite incroyable, 5-0 à domicile. En Formule 1, tout va se jouer dimanche.
Oui, avec le grand prix de la saison, celui d'Abu Dhabi. Lewis Hamilton et Verstappen sont en effet à égalité après la course folle d'hier en Arabie Saoudite. Bonjour Frédéric Veil.
Bonjour.
C'est la première fois depuis 1974 que deux pilotes arrivent sur le dernier Grand Prix avec le même nombre de points.
Exactement, c'était aux États-Unis pour le titre entre Emerson Fittipaldi et Claire Cazzoni. Là, ça va se jouer, comme vous l'avez dit, à Abu Dhabi, entre deux pilotes qui, on l'a encore vu hier, se respectent de moins en moins dès lors qu'ils sont sur la piste. Et ça, tout le monde l'a vu, à commencer par Philippe Alliot, l'ancien pilote de Formule 1.
Ils vont pas aller en vacances ensemble, ça c'est sûr, mais c'est une rivalité qui nous excite complètement. Et donc, ça rend tout ça très passionnant, et puis ça permet surtout d'avoir un dernier Grand Prix où il y a deux pilotes qui sont capables d'être champion du monde avec le même nombre de points avant le dernier Grand Prix. Quoi. Et si Verstappen accroche au premier virage Hamilton, il est champion du monde.
Alors ça, évidemment, c'est le scénario que personne ne veut voir, hein, même si depuis le début de la saison, les deux pilotes se rendent coup pour coup, mais à ce petit jeu, il n'y aura qu'un vainqueur qui, pour Olivier Panis, sera...
Que ça sera Lewis qui aura le dessus, parce que c'est le pilote le plus complet qui existe sur le plateau aujourd'hui pour gérer ces choses-là, malgré la qualité de Max qui est exceptionnelle.
Cela nous promet donc, ma chère Amandine, du beau spectacle dimanche prochain entre le fougueux Verstappen et l'expérimenté Hamilton en quête d'une historique 8e couronne mondiale.
Effectivement, sacré suspense. Merci à vous Frédéric Veil, spécialiste de Formule 1 ici à RTL. Et puis Pascal, vous connaissez forcément ça. Bravo.
J'ai écouté en boucle cet été Le Reste, je te le laisse.
Ah, et vous avez voté pour l'album RTL de l'année.
Elle est belle, c'est merveilleux.
Son album Cœur, en tout cas, remporte donc le prix de l'album RTL de l'année 2021.
C'est vrai.
Elle succède à Grand Prix de Benjamin Biolay, gagnant de l'édition 2020.
Le Reste, je te le laisse. Elle est belle cette chanson.
Ah oui, elle est belle.
Très très belle. Deux sujets dans une seconde. Le Covid, faut-il avancer les vacances scolaires ?
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Le gouvernement étudie la possibilité de fermer les écoles primaires deux jours plus tôt, avant Noël, le mercredi au lieu du vendredi. Il attend un avis du conseil scientifique qui sera rendu demain.
Avancer les vacances de Noël, voilà donc l'une des pistes sur la table du conseil de défense qui a lieu en ce moment même à l'Élysée. Vous l'avez vu, on entend parler, on parle de deux jours plus tôt pour ces vacances. Alors, est-ce suffisant? Quel est l'intérêt d'un point de vue scientifique? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour professeur Amouyel.
Allô?
Allô, allô, bonjour.
Oui, bonjour, vous nous entendez. Vous êtes, je le rappelle, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille. J'ai une question d'abord que se posent sans doute d'ailleurs nos auditeurs. Depuis ce week-end, on nous dit qu'on pourrait donc avancer ces vacances de Noël de deux jours, c'est-à-dire arrêter l'école le mercredi au lieu du vendredi. Franchement, entre nous, deux jours, ça peut changer quelque chose?
Alors je sais pas, je saurais pas vous dire si ça peut changer quelque chose, étant donné qu'aujourd'hui on a déjà des taux de contamination qui sont extrêmement élevés, hein, qui sont quasiment le double de ce qu'on voit dans la population générale. Donc la question qu'on pouvait imaginer, c'est peut-être une semaine, c'est-à-dire les prendre à la fin de cette semaine. Voilà, c'est ça ce qu'a fait la Belgique, par exemple, les prendre à la fin de cette semaine, peut-être faire du téléenseignement à ce moment-là sur cette semaine et les maintenir jusqu'au début du mois de janvier, comme ça avait été prévu initialement. Donc 48 heures, je sais pas en quoi ça peut diminuer la circulation, parce que c'est en ce moment que le virus circule.
On est d'accord que scientifiquement, ça n'aurait pas un grand intérêt.
Je sais pas, sur les éléments sur lesquels se sont basés ceux qui ont émis cette hypothèse de 48 heures, ce qu'on peut dire, c'est que lorsque les écoles sont fermées, en particulier lorsqu'il y a des taux de contamination aussi importants, c'est là qu'on a des chances de réduire cette circulation.
Tout le monde pense à Noël, monsieur Amouyel. Est-ce qu'à votre avis, le pic sera passé à Noël ?
Ben, ça va dépendre de nous. Je pense qu'il faut être clair là-dessus. D'une part, des gens qui se vaccinent, mais apparemment, les gens se vaccinent plutôt bien. Mais surtout, du maintien qu'on va devoir avoir des mesures barrières. Il faut qu'on remette le masque. Alors, pas tout le temps en extérieur, hein, mais dans les zones qui sont bondées, quand on est en intérieur, quand on va dans un bar, quand on va dans un restaurant, on avait un petit peu perdu cette habitude, il faut le reconnaître. La preuve en est, c'est que les virus classiques hivernaux étaient revenus alors qu'on les avait pas vus l'hiver passé. Et c'est cette accumulation finalement de virus hivernaux et de Covid qui ont bien diminué, dont les formes hospitalisées ont bien diminué grâce à la vaccination, qui pourrait mettre notre hôpital en difficulté. Et généralement, le pic de la grippe, c'est aux alentours du 15 décembre, donc un peu avant Noël.
Je reviens, pardon, sur l'histoire des vacances. Alors, c'est peut-être la maman qui parle, mais...
Il y a beaucoup de mamans qui nous écoutent.
Il y a beaucoup de mamans et de papas aussi d'ailleurs. Donc, si on fermait plus tôt les écoles, et ça veut dire qu'il faut garder les enfants, le problème c'est qu'il faut les isoler vraiment, c'est-à-dire rester tous ensemble à la maison, pas les mettre chez les grands-parents, ni chez des copains. Et la semaine d'après, ça veut dire qu'il n'y a pas de centre aéré, par exemple. Enfin, on est sur cette logique-là, professeur Amouyel, si on
oui,
suit.
Oui, tout à fait. Oui, alors, ce qui risque de se passer, hein, faut être clair, sur la semaine qui vient, on se rend compte qu'aujourd'hui, certes, on ne ferme pas les classes, puisque on détecte le premier positif, on teste les enfants et on ne met à la maison que ceux qui sont positifs. Il faut quand même 24, 48, 72 heures avant que le test se positive en cas de contact. Donc déjà, il y a un petit délai qui se joue. Et puis ce qu'on va avoir à la fin, c'est des classes ouvertes, mais avec peu d'enfants à l'intérieur des classes. Parce que généralement, quand un enfant a contaminé le jour où il est venu et qu'il était asymptomatique ou peut-être symptomatique, il a contaminé 4, 5, 10 autres enfants.
Mais c'est ce protocole à l'école qui ne va pas, alors, si je vous entends bien.
Alors, je pense que ce qu'on avait préconisé au niveau de l'école, c'était les tests. C'est-à-dire, dans les simulations qui ont pu être faites par mes collègues, en particulier, que ce soit les Allemands, les Français, c'est que si on arrive à tester deux fois par semaine tous les enfants avant qu'ils rentrent en classe, on peut réduire de quasiment moitié l'incidence. Or là, on a fait cette tentative, je crois, 600 000 tests proposés, il n'y en a que 200 000 qui ont été faits. Donc quand on tournera sur des mesures qui sont un petit peu hybrides, c'est-à-dire qu'on les prend, on ferme pas la classe, ok, parce que ils sont négatifs, ça n'exclut pas qu'on va quand même avoir soit des classes vides, soit finalement des classes qui vont finir par fermer faute de combattants. Donc la question est de savoir si on stoppe cette circulation à un moment donné, c'est-à-dire à partir de la fin de la semaine, mettons, que ça évite en particulier que les petits-enfants qui se sont contaminés ramènent ça dans les familles et que, avec le délai d'incubation, on se retrouve aux alentours du début des fêtes de Noël avec un taux de contamination dans les familles qui va être important, des rencontres qui vont être familiales, ce sont des fêtes familiales, les fêtes de Noël, les petits rencontrent les parents qui rencontrent les grands-parents, et là, de risquer d'avoir un pic de contamination chez des grands-parents qui ne seraient pas vaccinés, parce que je vous rappelle qu'il y en a encore 600 000 qui ne sont pas vaccinés, et qui là, pourraient encore à nouveau saturer l'hôpital.
Bon, je vois qu'il y a une très grande prudence dans ce que vous dites, mais on va essayer de décoder. Ce que vous nous dites, c'est que les deux derniers jours avant les vacances de Noël, ça ne servirait pas à grand-chose. Et s'il fallait prendre une mesure, ça serait maintenant, mais le gouvernement ne la prend pas.
Alors, je ne sais pas, on va attendre de voir quelles vont être les
mesures. Mais c'est ça, au fond, ce que vous nous dites. C'est-à-dire que, idéalement, et vous n'osez pas le dire, j'ai le sentiment qu'il y a une forme de réticence dans votre parole, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, mais que, idéalement, d'un point de vue sanitaire, il faudrait maintenant dire les enfants ne vont pas à l'école, mais on est le 5 décembre.
Et ça a une dimension politique, j'imagine, professeur, forcément.
Bah forcément, tout a une dimension politique. Si vous me demandez mon avis d'épidémiologiste, je vous dirais, ce serait bien qu'on avance d'une semaine pour mettre les enfants en télétravail. Voilà, c'est ça la question.
Mais vous prenez pas en compte ni les parents ni les enfants dans l'histoire.
Non, mais je comprends votre prudence. Je vous assure, je la comprends. Je la devine.
Attendez, je les prends en compte quand même. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans la mesure où je sais très bien, pour des raisons familiales, que ça va créer un certain nombre de problèmes.
C'est même impossible. C'est compliqué, en tout cas. Où on met tout le monde en télétravail. Mais c'est pas simple.
Ça va pas être simple. En revanche, si on se retrouve avec une épidémie à Noël, avec
bien
des
sûr,
hôpitaux
c'est
saturés,
pour ça que c'était intéressant de vous écouter.
Ça va plus du tout être simple non plus, et surtout que ça va nécessiter à ce moment-là des mesures beaucoup plus contraignantes. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Après, c'est
on
bien
a compris
sûr...
votre pensée, et c'est l'essentiel.
Merci.
Merci à vous, professeur Amouyel, d'avoir été en direct dans RTL Midi.
Merci à vous. Deuxième débat dans une seconde, il va être politique cette fois-ci. C'est vrai que cette campagne électorale, elle va peut-être être passionnante parce que vous avez quatre candidats qui seront peut-être plus proches qu'on ne le pense, voire un cinquième avec Jean-Luc Mélenchon. Donc, nous allons faire un point étape avec Édouard Le Cerf. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Bonjour mes amis, merci. Merci de cet accueil.
Merci d'avoir eu cette audace. Je vais tout donner.
Non, la France, ce n'est pas l'extrême droite. La France, c'est la sécurité sociale. C'est la santé publique.
Deux meetings et une candidate pour les Républicains. Clairement, la campagne présidentielle s'est accélérée ce week-end. Alors, tout est-il pour autant joué? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Bonjour, Édouard Le Cerf.
Bonjour.
Patron de l'Institut BVA. Bon, je dis tout est pour autant jouer? Non, et heureusement, j'allais le dire, heureusement pour nous tous, c'est sans doute pas fait là aujourd'hui.
Non, mais c'est vrai que ça fait énormément de bruit médiatique. Il y a eu des grands événements, en tout cas des éléments fondateurs dans le début d'une campagne. La vraie question, c'est de savoir si les 45 millions d'électeurs sont dedans. Et la réponse est non, pas encore. Ils sont pas dedans. Ils voient un théâtre se mettre en place, une scène, des acteurs, mais eux sont pas encore complètement dedans. Et on parle, encore une fois, d'un meeting avec plus de 10 000 personnes. On parle d'une élection à droite avec plus de 100 000 électeurs. Ça n'est pas tout à fait exactement les mêmes proportions que lorsqu'on parle de 7 millions d'électeurs de François Fillon au premier tour de la présidentielle la fois dernière, 15 millions pour pouvoir gagner au second tour et plus, sans doute. Donc voilà, on n'y est pas encore complètement.
Vous parliez du meeting de 10 000 personnes, c'est celui d'Éric Zemmour hier à Villepinte. Je voudrais qu'on réentende cet appel lancé aux électeurs des Républicains.
Je tends la main aux électeurs, aux cadres, aux sympathisants des Républicains, dont beaucoup ont été représentés par mon ami Éric Ciotti.
Dans le cercle, c'est la clé, ça, pour Éric Zemmour.
Vous entendez Éric Zemmour faire une sorte d'amalgame un peu rapide d'ailleurs. Il parle des électeurs, des cadres, des militants. Ceux qui ont voté, encore une fois, ce ne sont pas tous les électeurs de droite. Alors bien sûr, on sait que l'électorat de droite est aujourd'hui dans un moment un peu particulier. Il y a une partie, lorsqu'on regarde les intentions de vote, parce que c'est l'outil qu'on a aujourd'hui à notre disposition, qui est imparfait, mais qui nous permet de voir comment est-ce qu'un électeur de droite, on va dire celui, pour reprendre cet ensemble-là, celui qui a voté François Fillon au premier tour, ces 7 millions-là, comment est-ce qu'ils se répartissent aujourd'hui? Oui, il y a une partie, un tiers à peu près, qui se dit, moi, si jamais Emmanuel Macron est candidat, je pourrais voter pour lui.
Un tiers.
Voilà, à peu près. Vous avez à peu près la moitié qui va se dire, le ou la candidate de droite, on n'a pas encore d'intention de vote avec la candidate Valérie Pécresse, eh bien, ça sera plutôt effectivement mon choix. Et puis, il y en a un certain nombre d'autres qui peuvent être tentés par être plus à droite, des candidats un peu différents, parce qu'ils ne se retrouvent pas soit dans le candidat ou la candidate qui va se présenter, soit parce que Emmanuel Macron ne correspond pas à ce qu'ils veulent être. Et puis, vous en avez un certain nombre, sans doute parmi tous ceux-là, des gens qui se disent, j'aimerais peut-être essayer de retrouver ce qu'était ma droite, une droite traditionnelle, une droite qui se présentait aux élections présidentielles, une droite qui avait un candidat qui était fort, qui avait un programme. Voilà. Et ceux-là sont un peu perturbés. Donc on est aujourd'hui dans ce moment-là. Donc oui, c'est important, les appels aux uns et aux autres, c'est sans doute maintenant qu'il faut les faire, même s'ils ne sont pas tous, encore une fois, les électeurs dans la campagne.
Vous cherchiez peut-être des indicateurs et vous disiez que vous n'aviez que les intentions de vote. Mais est-ce que vous faites une corrélation entre le nombre de téléspectateurs qui suivent un candidat à la télévision et les intentions de vote? Je vous dis ça parce qu'hier, Éric Zemmour a été suivi par 2,5 millions de téléspectateurs, ce qui est énorme sur les chaînes info.
Une corrélation directe, non. Non, parce que dans ce cas-là, d'abord c'est beaucoup trop tôt. On est aujourd'hui, encore une fois, dans... Je me souviens, on a vu cette conversation ensemble lors du débat qu'il y avait eu entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. On s'était d'ailleurs étonné, en tout cas on avait noté qu'il y avait eu un nombre très important...
Plus de 4 millions de mémoire.
Ouais, exactement, très, très important de téléspectateurs. Alors bien sûr, ça crée de l'intérêt... Ces 2 millions, ce sont 2 millions de Français qui, eux, pour le coup, s'intéressent à la politique, en bien ou en mal, pour la critiquer ou pour y adhérer, pour pouvoir avoir envie d'y faire des choses, ou au contraire prendre la distance, parce qu'on aime aussi critiquer. Mais pour autant, bien sûr que non, un auditoire ou ces téléspectateurs ne valent pas autre chose que de l'intérêt pour le mouvement politique. Quand je dis le mouvement, c'est pas pour le fond, pour les idées, mais pour ce qui est en train de se passer. C'est vrai que ça crée du buzz, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est vrai que c'est sans doute pour Éric Zemmour quelque chose qu'il attendait, c'est-à-dire que faire un meeting de cette ampleur-là et avec les retentissements qu'il y a, c'est une manière de continuer à dire « j'existe », alors que son rapport à la réalité et au concret, lorsqu'il a descendu dans l'arène publique, à Marseille ou à d'autres éléments, c'était moins facile. Donc là, il faut faire attention aussi. Il y a du monde, mais c'est un peu une bulle.
Juste un mot encore, Edouard Le Saff, on parlait de Valérie Pécresse qui déjeune en ce moment avec Éric Ciotti. Elle ne peut pas se passer de lui vu la structuration de l'électorat de droite aujourd'hui ou...
Alors, la structuration de l'électorat de droite, encore une fois, les 40% qui ont voté pour Éric Ciotti au second tour, c'est une partie de la population. Mais ce qui est vrai, c'est que l'électorat de droite est composite. On le sait depuis René Raymond, on a une droite orléaniste, bonapartiste...
Mais la France est plus à droite aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années.
Il y a sans doute, effectivement, quand on pose la question aux Français, ils sont plus nombreux à se situer à droite qu'auparavant. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'ils vont voter pour un candidat de droite? C'est toute la question. Est-ce qu'elle sera un capable d'agréger ça. Aujourd'hui, Valérie Pécresse a un problème, j'avais presque de cuisine. Pardon, hein, un problème de cuisine. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'huile et du vinaigre. Et vous devez faire une émulsion.
Il faut mélanger.
Ouais, et vous devez faire tourner tout ça.
On va en parler avec les auditeurs, mais elle n'a pas beaucoup de choix quand même, parce que si elle ne met pas le curseur à droite, les gens vont partir, et si elle va chez Macron, ils y sont déjà. Donc c'est compliqué.
C'est un point de vue, ça n'est pas... Ça n'est pas bien. Moi, je pense qu'il y a parmi les électeurs de droite, encore une fois, des gens qui sont aujourd'hui...
Mais ils sont déjà partis.
Alors,
ils sont partis chez Macron, avec Darmanin, ils sont partis avec Bruno Le Maire, c'est pour ça que le curseur, pour elle, me semble-t-il.
Il n'y avait pas, jusqu'à présent, à droite, et ça, tout le monde le voyait très bien, ni les éléments de reconnaissance parmi les électeurs de droite d'un projet, d'un leader, et de quelque chose qui peut faire
sens.
Enfin,
elle a plutôt intérêt à piquer des électeurs à Marine Le Pen et à Éric Zemmour, et ça sera peut-être plus facile pour elle. Mais on va en parler avec les auditeurs. Voilà une bonne question. Il est 13h, on est un poil en retard. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on est ensemble jusqu'à 14h30 et on parle politique. A tout de suite.
RTL Midi.
RTL. On est 13h en retard, 13h03.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole à quelques secondes, effectivement, de retard. Nous sommes avec Thierry qui habite Toulouse. Bonjour Thierry.
Bonjour Pascal.
Votre sentiment sur ce que vous avez vu hier, une journée particulière ?
On va dire deux poids deux mesures.
Ah, bah écoutez, on va développer. Amandine, le rappel des titres.
Et à la une, la crise sanitaire et ce nouveau conseil de défense qui se tient en ce moment même à l'Élysée, parmi les pistes qui seront sans doute évoquées, l'idée d'avancer les vacances de Noël. Certains parlent de deux jours. Ce serait sans doute inefficace, nous disait il y a quelques minutes le professeur Amouyel, qui plaide, lui, si on veut en tout cas que ce soit efficace, pour un avancement de ces vacances d'une semaine. Dans l'actualité, également, le parquet de Bobigny qui annonce l'ouverture d'une enquête après les incidents survenus hier lors du meeting d'Éric Zemmour, le désormais candidat qui, lui, a porté plainte contre l'individu qui s'est jeté sur lui, un homme de 27 ans qui est toujours en garde à vue. Et puis Valérie Pécresse est-elle ce midi dans les Alpes-Maritimes, le fief d'Éric Ciotti, opération réconciliation. Il s'agit en tout cas de sceller l'union après ce congrès, donc ce week-end. La météo du jour avec vous, Louis, ça reste bien humide.
Exactement, avec une perturbation qui arrive par l'ouest, là, qui va cet après-midi recouvrir toute la moitié ouest avec des nuages, de la pluie, de la neige en arrivant sur les reliefs, sur les Pyrénées, puis sur le Massif central. Ce soir, cette perturbation arrivera dans l'est, avec là aussi de la pluie ou encore de la neige en montagne, que l'on retrouvera demain matin dans ces régions de l'est. Alors, les températures cet après-midi vont entre 4 et 6, 7 degrés, grand maximum de la région Rhône-Alpes au nord-est, en dessous de 10 degrés ailleurs, sauf près de la Méditerranée. Et puis, je peux continuer comme ça ?
Oui, ça va être comme
voilà,
ça.
Très bien.
Toute la semaine.
Toute la semaine.
Voilà. C'est vrai.
Pour demain, hop, une nouvelle perturbation. Mercredi, ça se refroidira à nouveau. Donc des averses, vent de pluie, de neige. Vendredi, journée exécrable avec des nuages.
Et
de
le week-end, pareil.
Il y a pour la pluie le week-end, ça continue. Alors peut-être un peu mieux dans la moitié sud, mais dans la moitié nord, toujours des nuages, de la pluie et de la neige en montagne.
Ça donc Pascal, il aime bien ce temps-là.
C'est l'hiver.
C'est fin de saison.
Mais bien sûr. Vrai. Merci, cher
merci
Louis.
Louis.
Merci, Amandine. Merci à Ludovic Van de Kerkhoff, qui était à la rédaction en chef de ce 12h30.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Édouard Le Cerf est resté avec nous. Vous allez pouvoir l'interroger, puisque c'est le patron de BVA. Et évidemment, il peut nous éclairer. C'est intéressant, les discussions qu'on a, parce qu'on se dit où elle doit aller chercher des voix. Et on parlait de Valérie Pécresse il y a une seconde. Mais tout d'abord, Thierry voulait intervenir. Bonjour Thierry, vous êtes enseignant et vous êtes militant pour Éric Zemmour, dites-vous.
Oui, en tout cas, j'essaie de l'être. J'essaie de l'être.
Alors, ce qui est intéressant et aussi intéressant pour Édouard Le Cerf, c'est de comprendre votre parcours politique, puisque Zemmour, c'est une nouvelle offre. En 2017, vous avez voté pour qui ?
En 2017, non, j'ai pas voté pour Monsieur Macron, non.
Non, mais je vous demande, vous avez voté pour qui ? Vous avez voté pour Marine Le Pen ?
Je me sentais,
comme si vous aviez honte de le dire.
Non, j'ai pas honte, mais disons qu'on est tout le temps, on a l'impression qu'on est un peu coupable.
D'accord, donc 2017, Marine Le Pen, et avant, parce que vous avez 54 ans, donc ça fait un moment que vous votez. Avant, vous êtes issu de la droite classique du RPR, entre guillemets.
Tout à fait. J'ai fait la campagne de Chirac en 95 avec Juppé. J'étais dans sa permanence dans le 18e arrondissement.
Donc ça, c'est la cible que cherche finalement Éric Zemmour lorsqu'il parle du RPR. Donc vous incarnez ça. Bon, qu'est-ce qui vous a frappé hier ? Et après, je donne la parole à Édouard Le Cerf.
Alors moi, ce qui m'a frappé hier, c'est qu'effectivement, bon, il y a eu ces personnes, ces individus qui font partie de cette association antiraciste. Après, est-ce qu'ils sont gauchistes ou pas, j'en sais rien, c'est pas mon problème. En tout cas, je dénonce effectivement et je condamne les actes de violence de ce certains militants qui ont frappé ces jeunes-là. Ça, c'est, il faut le dire clairement. Mais il faut dire également clairement, et ça c'est pas trop dit, que ces personnes-là, il y a eu trouble à l'ordre public. On est d'accord là-dessus, et que pénalement c'est répréhensible. Ça ne se dit pas beaucoup. Et il faudrait déposer plainte contre ces gens-là. Trouble à l'ordre public.
Ils disent qu'ils ont voulu afficher une banderole.